Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Objectif 14 milliards de dollars et objectif atteint à Lyon. Ces contributions annoncées hier par chaque pays donateur pour alimenter les réserves du Fonds mondial. Ce partenariat en première ligne pour lutter contre les épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. Une soixantaine de pays contributeurs, un classement avec un trio de tête, États-Unis, Royaume-Uni et France. La France, deuxième contributeur historique et l'hôte de la conférence. Des promesses qui vont se traduire par des actions de prévention et de prise en charge pour un nouveau cycle de 3 ans, financer l'achat d'antirétroviraux, de matériel de contrôle de la charge virale, de moustiquaires imprégnés, poursuivre les programmes de prévention de transmission du VIH de la mère à l'enfant, permettre à des associations de travailler au cœur des communautés, renforcer des structures médicales, former des soignants, proposer un dépistage adapté au contexte, la recherche des cas manquants de tuberculose, favoriser aussi l'accès à la chimioprévention du paludisme saisonnier ou encore la distribution de préservatifs, de méthadone. Traduction donc très concrète de ces contributions internationales qui sont multiples, variées et puis bien sûr financer la recherche, on va en parler. Outils pour lutter contre ces épidémies, eh bien ils existent. Chantier gigantesque, tentaculaire pour terrasser ces maladies car malgré les avancées, en dépit des progrès de la recherche et de la mobilisation internationale, eh bien, la tuberculose a tué 1 700 000 personnes en 2016. 770 000 personnes ont succombé l'an dernier à des maladies associées au sida. Plus de 200 millions de cas de paludisme sur la planète. La maladie a provoqué 435 000 décès en 2017. 90% de ces morts étaient concentrés en Afrique subsaharienne. La lutte contre les grandes épidémies, volonté politique, traduction financière, programme engagé, projet à développer. On en parle avec nos invités réunis ici à Lyon. Avec nous, Dr Abdourahmane Diallo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes le directeur général du partenariat RBM, Rollback Malaria, pour en finir avec le paludisme. On va parler recherche et sida avec vous, professeur François Dabis, bonjour.
Bonjour.
Professeur Dabis, directeur de l'ANRS, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Bordeaux en France. Et tout à l'heure, il va nous rejoindre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, monsieur Awele Eugène Akar.
Priorité santé sur RFI.
Alors, un résultat, on a entendu beaucoup ces dernières heures à Lyon parler d'argent, de dollars, parfois même de CFA, parfois même avec quelques petites erreurs sur les calculs, des promesses annoncées pour renflouer les caisses du Fonds mondial pour un nouveau cycle. Mais avant de parler justement de ces différentes contributions et bien sûr des objectifs de traitement, des objectifs de soins, l'enjeu de cette conférence de Lyon, on l'a entendu, on l'a rappelé, eh bien il y avait aussi des témoins qui sont venus parler de leur cas, de leur situation de patient. Cette conférence de Lyon se traduit avant tout en millions de vies sauvées. On écoute un extrait du discours qu'a prononcé, c'était jeudi matin, le président de la République, hôte de la conférence. On revient donc en arrière, il y a 24 heures, Emmanuel Macron encourage les participants à accélérer le mouvement, accroître la contribution. Cet objectif, c'est 14 milliards.
Je ne laisserai personne sortir de cette pièce, ni quitter Lyon, tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus. Il y a ici beaucoup de grands leaders, de représentants. Il y a des chefs de gouvernement en Afrique qui se battent contre la maladie, dans leur pays, contre la guerre, contre le terrorisme. On n'a pas le droit de les laisser attendre. Il y a partout des jeunes qui se battent contre la maladie, sans traitement. Il y a des jeunes qui, avec la maladie, le traitement, se battent contre les discriminations. Il y a trop de jeunes qui nous attendent. Il y a trop d'enfants qui ne veulent pas notre charité, qui ne veulent pas des chiffres, qui ne veulent pas simplement, un jour à Lyon, ils veulent avoir une vie normale. Ils veulent choisir d'être amoureux ou amoureuse de qui ils veulent. Ils veulent pouvoir avoir un travail, mener des études, simplement vivre.
Emmanuel Macron, déterminé à la tribune de cette conférence de Lyon, il encourage les autres chefs d'État, s'en suivent les prises de parole des délégués des pays qui, les uns après les autres, vont énoncer leur contribution. Vers 13h, le tour de table est complété. Il y a bien sûr les donateurs historiques, de nouveaux venus qui élargissent le cercle des bailleurs. Ensuite, un discours de Bill Gates, co-directeur de la fondation Bill et Melinda Gates. Et puis, l'annonce du résultat final par Peter Senge, le directeur exécutif du Fonds mondial.
I'm delighted to be able to tell you that having set a target of raising...
Je suis ravi de pouvoir vous annoncer que nous avons atteint notre objectif de 14 milliards de dollars pour cette sixième reconstitution des ressources. Les promesses de dons atteignent 14,02 milliards de dollars et nous sommes vraiment fiers de cela.
Peter Senge, directeur exécutif du Fonds mondial, au micro de Simon Rosé. Voilà cet objectif de 14 milliards de dollars, résultat annoncé par l'hôte de la conférence. Alors peut-être d'ailleurs plus que ce fameux chiffre de 14 milliards atteint, c'est de l'élan de ce qui s'est passé à Lyon, dont on pourrait parler pour commencer cette émission. Docteur Abdourahmane Diallo, trois grandes pandémies. Vous, votre action, elle concerne spécifiquement le paludisme, mais bien évidemment, on pense à une santé globale pour l'Afrique, pour le Sud. Docteur Diallo, est-ce que vous avez senti un élan particulier au cours des dernières 48 heures à Lyon ?
Alors absolument, il faut saluer vraiment la passion qui a été observée depuis que nous sommes arrivés ici à Lyon, l'élan de solidarité de tous les pays donateurs classiques, comme vous venez de le dire, et surtout aussi de nouveaux donateurs, et vraiment un engouement, un engagement personnel du président Macron que tous les participants ont apprécié, et on l'a entendu tout à l'heure sur le reportage, il a pratiquement demandé à tout le monde de mettre la main à la poche pour que le seuil minimum de 14 milliards soit atteint. Donc fantastique élan de solidarité au-delà même de ces montants.
Et précisément, pour rester dans le cas du paludisme, pour commencer si vous le voulez bien, une bonne nouvelle d'obtenir ces fonds pour lutter contre le paludisme, parce que les orateurs l'ont souligné, on a eu une impression que un petit peu les choses étaient faites, les acquis étaient là en termes de mortalité, en termes de baisse des personnes concernées directement par ces grandes pandémies. L'infection parasitaire, justement, on a décrit les résultats qui étaient là, avec une baisse conséquente de la mortalité, et puis une étape clé, puisque on a observé un tassement. Docteur Diallo, vous pouvez justement nous décrire cette épidémie de paludisme au niveau mondial. Pourquoi les choses se sont gâtées ces dernières années ?
Alors, comme vous le dites, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'an 2000, les efforts internationaux ont permis de sauver plus de 7 millions de vies et d'éviter 1 milliard de nouvelles infections à travers le monde. Pourtant, le paludisme reste l'une des maladies les plus meurtrières au monde, tuant plus de 400 000 personnes par an. Et malheureusement, le continent africain porte plus de 90% de la charge mondiale de paludisme, donc soit plus de 200 millions de cas annuels. Pour nous, donc, ce renouvellement est capital. Vous savez que pour la lutte contre le paludisme, 65% des fonds externes, donc, qui rentrent dans la lutte contre le paludisme viennent du Fonds mondial. Et plus de 44% des fonds totaux, qui rentrent dans la lutte contre le paludisme viennent également, donc, du Fonds mondial. Comme je le disais tout à l'heure, un progrès extraordinaire, mais malheureusement, on a observé ces deux dernières années un ralentissement de ce progrès.
Et je vous demande pourquoi.
Justement, le ralentissement de ce progrès, il faut d'abord souligner qu'on a identifié les pays que nous appelons les pays à lourd fardeau, qui sont vraiment les pays un petit peu à la traîne encore. C'est 11 pays, 10 pays d'Afrique et un pays en Asie, c'est l'Inde. Alors, les facteurs sont multiples et variables.
Pays, on peut citer certains de ces pays d'Afrique, oui, le Nigeria, la République démocratique du Congo.
Oui, alors en allant rapidement de l'ouest vers le centre, vous avez le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Ghana, donc la République démocratique du Congo, vous avez le Mozambique, vous avez l'Ouganda, vous avez la Tanzanie. Il y a une initiative initiative en ce moment qui est catalysée et conduite par le partenariat arbien pour en finir avec le paludisme et l'OMS, qui s'appelle en anglais HBHI, High Burden to High Impact, c'est-à-dire dont le fardeau lourd à l'impact, qui sert en fait à travailler avec ces pays pour identifier justement les problèmes, les goulots d'étranglement, les raisons pour lesquelles justement les programmes de lutte contre le paludisme, je dirais, traînent un petit peu. Donc l'idée, c'est d'identifier les problèmes et de développer des stratégies à opposer aux difficultés qui auraient été identifiées.
Donc très importante cette remontée d'informations, justement sur l'inflexion qu'il y a eu sur le paludisme. Il y a eu aussi des inquiétudes du côté de la tuberculose à cause de la résistance aux médicaments. Du côté du sida, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour le dépistage des populations clés, des populations cibles les plus difficiles à atteindre. On va en parler avec vous, professeur François Dabis. Les associations sont justement alarmées. Un Médecins Sans Frontières s'est posé la question pour savoir comment ces objectifs mondiaux de lutte contre le VIH et la tuberculose à l'horizon 2020 seraient atteints. Justement, vous qui êtes chercheur, directeur de l'Agence publique française de recherche sur le sida et les hépatites virales, est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, cet élan? Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer pour le quotidien des patients?
Alors oui, il y a eu un vrai élan ici. Il y a eu peut-être un changement de paradigme que, à nouveau, le président Macron est en train d'insuffler. Je dois dire que j'arrivais à cette conférence avec des idées peut-être sur le fait que la France allait maintenir sa contribution, peut-être faire légèrement mieux. Là, je pense qu'on va... Alors évidemment, ce ne sont que des promesses. Mais je pense qu'on va faire nettement mieux. Et surtout, au-delà du chiffre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est le dynamisme, dynamiser cette réponse et faire quelque chose. Et là, je pense que la France peut jouer un rôle important. Elle est en train de le jouer au travers de notre président. Les inquiétudes sont réelles. Ce n'est pas uniquement une question d'argent.
En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des questionnements sur la santé, sur la prise en charge, qui s'entremêle avec la politique, la diplomatie. Est-ce qu'on doit vraiment donner un sens à cette mobilisation en termes de leadership? Est-ce que c'est important, professeur François Dabis, savoir quel pays avance, quel pays, on va dire, pour parler vulgairement, met la main à la poche?
Alors, c'est important de savoir qui met la main à la poche, mais c'est peut-être aussi très important aujourd'hui de savoir qu'il y a des résultats très variables selon les pays, et on voit des bons élèves apparaître sur l'écran. Évidemment, on a beaucoup parlé du Rwanda dans le cadre de cette conférence, et le Rwanda, il était peut-être un bon élève pour le VIH-SIDA, mais il est aussi devenu un très bon élève pour le tuberculose, il est devenu un très bon élève pour le paludisme, et tout ceci s'explique par le fait que justement, ils ont une approche globale. Et l'approche globale a consisté, je dois dire probablement d'ailleurs, sans que le Fonds mondial s'en rende bien compte et sans qu'ils les poussent beaucoup, ils ont beaucoup utilisé les moyens qui leur étaient donnés pour renforcer leur système de santé. Et en faisant ça, ils mettent en œuvre des conditions qui permettent à tous les programmes, sans le centrer sur les maladies, d'être particulièrement efficaces.
C'est ça, c'est très important, cette remontée d'informations, pour voir aussi ce qui marche. Dans le cas du Rwanda, par exemple, c'est d'utiliser les fonds mondiaux, si on veut schématiser, pas uniquement pour acheter des médicaments, pas uniquement pour acheter des moustiquaires, mais aussi pour renforcer la santé locale, former des soignants et puis aussi permettre des systèmes d'assurance. C'est partir de la base pour offrir un meilleur service justement aux patients. Est-ce que justement il y a une modélisation, professeur François Dabis? Parce que quand on est dans la recherche, on cherche des vaccins, mais on cherche aussi des solutions de soins.
Alors, on cherche beaucoup de solutions et je dois dire que j'ai été très sensible au discours du directeur général, directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands, il y a quelques minutes, puisque nous sortons de la conférence au moment où on a enregistré cette émission. Il a dit très clairement, il y a un lien quasi permanent entre la recherche, l'innovation, le passage sur le terrain et le passage sur le terrain à très grande échelle. Et il l'a bien dit à de plusieurs reprises, et Bill Gates lui-même dans son discours l'a également dit. On a beaucoup de solutions aujourd'hui, elles sont assez formidables, il faut bien le dire. Elles restent complexes, donc elles ne nous permettent pas de passer partout à l'échelle comme on le voudrait. Il faut qu'on ait des nouvelles solutions, et ces nouvelles solutions viendront enrichir les programmes à venir. On a vraiment un cercle qui fonctionne très bien, et je veux dire que les mots recherche et innovation, je les ai entendus beaucoup plus dans cette conférence, qui n'était pourtant pas destinée à ces sujets, que dans le passé.
Alors, docteur Abdourahmane Diallo, est-ce que vous diriez qu'on est revenu à un certain réalisme après une période peut-être un peu d'euphorie. Il faut dire que les indicateurs permettaient aussi de se réjouir parce qu'il y avait de tels gains en termes d'années de vie, d'espérance de vie pour certaines régions du monde et surtout pour, on va dire, les plus vulnérables, à savoir, dans le cas du paludisme, les enfants de moins de 5 ans avec une mortalité en baisse sensible. Est-ce qu'après justement cette période d'un optimisme peut-être qui s'est révélé sur le temps un petit peu exagéré, on retourne à un réalisme et aujourd'hui, si on devait parler de grands projets pour lutter contre le paludisme, on a parlé justement avec le Rwanda de cette couverture santé, on a entendu une expression qui a retenu mon attention quand on a parlé du paludisme, la couverture de moustiquaires imprégnée universelle. Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on est revenu en arrière? Est-ce qu'encore toutes les familles, y compris dans des villages reculés, ont à disposition ces fameuses moustiquaires qui sont indispensables?
Si vous permettez, je voudrais revenir sur un tout petit peu sur le sujet précédent parce qu'il est très très important. Vous avez vraiment mis le doigt sur une question fondamentale, c'est-à-dire le renforcement des systèmes de santé de façon générale. Alors, il faut savoir que bien qu'il y ait des programmes spécifiques de lutte contre certaines maladies, il faut savoir qu'il est fondamental, il est important d'investir dans les systèmes de santé. Je le dis souvent, vous savez, des communautés, je le dis souvent en taquinant, mais c'est la réalité, des communautés, jamais quelqu'un ne sortirait de sa maison pour aller vers une structure sanitaire et dire que voilà, je suis là pour voir le médecin du paludisme, je suis là pour voir le médecin des hépatites, je suis là pour voir le spécialiste de tuberculose, etc., etc. Alors, les gens viennent avec des symptômes. Donc, la capacité du système de santé à proprement gérer cette rencontre initiale, c'est-à-dire avoir du personnel sur place déjà, du personnel de qualité formé sur place, avoir l'infrastructure qu'il faut, avoir les produits qu'il faut pour le diagnostic, un diagnostic donc correct, avoir la possibilité de faire une prise en charge adéquate ou alors un système de référence efficace, donc détermine le pronostic ultérieur. Donc c'est fondamental d'avoir un mécanisme non seulement pour lutter contre les maladies telles que présentées actuellement, mais il est fondamental d'investir dans le renforcement des systèmes de santé.
Professeur François Dabis.
Oui, moi, c'est important qu'on comprenne bien ça. Le renforcement des systèmes de santé, c'est bien sûr aujourd'hui dans beaucoup de pays, reconstruire, améliorer l'accueil dans des hôpitaux, des dispensaires, encore être plus périphérique. C'est bien sûr avoir des personnels très bien formés, mais c'est surtout que le système fonctionne pour accueillir des personnes. Et que lorsque vous allez vers un centre de santé, soit-il le plus lointain possible, ou que vous ayez quelqu'un qui est dans la communauté pour servir, il vous traite en tant que personne. Et que si vous venez pour une question relative au dépistage du VIH, on n'oublie pas de poser des questions sur le paludisme, sur la tuberculose, sur bien d'autres sujets. Et à nouveau, si vous avez déjà le VIH, qu'on n'oublie pas, par exemple, si vous êtes une femme, de vous préoccuper de savoir si vous auriez à prévenir un éventuel cancer du col de l'utérus. C'est toute cette chaîne qu'il faut revoir. Il faut centrer nos services sur la personne. Et donc, il faut à la fois être très performant sur l'approche des maladies, et on a trois pandémies particulièrement redoutables, mais il faut qu'on réorganise tout ça autour des personnes, c'est-à-dire autour des populations qu'on va servir.
Une expression qu'on a beaucoup entendue, hein, quand on s'intéresse justement à ces grandes pandémies, nous sommes à la croisée des chemins. C'est une sorte d'avertissement avec des inquiétudes. Il y a quand même des points de blocage notables, des points de résistance. J'aimerais qu'on en fasse un petit peu le tour avec chacun d'entre vous, si vous le voulez bien. Je vous ferai réagir à chacun de ces points de blocage. Un commentaire à chacun, docteur Diallo, professeur Dabis. D'abord, peut-être l'antibio-résistance, un problème très important et qui pourrait encore s'amplifier dans les années à venir, professeur Dabis.
Alors oui, c'est un problème qu'on trouve dans le monde entier. C'est un problème qu'il va falloir gérer très sérieusement. Si je reprends le sujet qui est le mien ou les deux sujets qui sont le mien, que sont le VIH d'une part et un petit peu la tuberculose. Sur la tuberculose, c'est un vrai sujet. Néanmoins, là aussi, la recherche fait d'énormes progrès et les tuberculoses résistantes, très probablement dans un futur assez proche, on va avoir un panel de solutions, de nouveaux antibiotiques qui vont permettre de s'en occuper efficacement et notamment avec des traitements de courte durée. Pour le virus du VIH-Sida, ce sont donc pas du tout des antibiotiques, ce sont des antiviraux, antirétroviraux pour être très précis. On observe des taux de résistance qui ne sont pas négligeables, effectivement, dans les pays qui ont commencé à faire comme ils ont pu, souvent à mettre les gens sous traitement. On est en train là aussi de vivre une révolution, une croisée des chemins, avec une dernière génération de médicaments qui ne induit extrêmement peu, voire pas de résistance. Et ces médicaments, eh bien aujourd'hui, les décisions ont été prises à l'échelle internationale de faire basculer assez vite tous les patients dans tous les pays vers cette nouvelle ligne de traitement. C'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement complexe à faire, mais incontestablement les résultats seront là, parce que à partir du moment où on peut donner des traitements qui n'induisent pas de résistance ou très peu, ça va quand même complètement changer la manière de voir les choses sur le long terme. Il ne faut pas oublier que les personnes qui vivent avec le VIH, pour l'instant, on doit les traiter toute la vie.
Toute la vie et tous les jours.
Tous les jours et toute la vie. Donc, avoir des solutions qui soient robustes et tout particulièrement importantes, on vient d'en trouver qu'on peut appliquer à très large échelle et on est en train de le faire.
On a parlé, on peut en parler plus longuement, mais de la fragilité des systèmes de santé. Il y a aussi une autre question qu'on n'a pas abordée, qui est particulièrement importante dans le cas des épidémies de VIH-Sida, mais pas simplement, pour beaucoup d'autres maladies partout dans le monde. On pense aux maladies mentales, mais là, on parle de ces épidémies. Il s'agit de la stigmatisation des populations. Être malade, c'est aussi être perçu d'une certaine manière par son entourage, dans la société dans laquelle on vit. À ce propos, là aussi, hein, les chercheurs travaillent, professeur Dabis.
Alors, on travaille, on essaye de réfléchir avec souvent des acteurs de terrain et souvent des acteurs de la société civile à imaginer des systèmes qui soient plus adaptés, à minimiser ces questions-là et qui permettent d'avancer dans cette voie. La discrimination, c'est un problème majeur. Ça reste un problème majeur dans la majorité des pays. Le stigma, c'est vrai, c'est un vrai souci. Une étude vient de sortir il y a quelques jours, je crois, qui reprend un petit peu comment la société civile est organisée dans les différents pays pour lutter contre la discrimination. Et on voit que dans les pays où on a la meilleure organisation pour lutter contre la discrimination et le stigma, eh bien, ce sont les pays qui ont aujourd'hui les meilleurs indicateurs de résultats en matière de lutte contre le VIH. Donc, il y a une corrélation directe entre l'importance de la manière dont on s'occupe de la discrimination et les résultats globaux. Ce n'est pas uniquement une affaire de médicaments, la lutte contre le sida.
C'est pas une affaire de médicaments.
C'est une affaire de médicaments, mais pas
seulement. Voilà. Et pour toutes ces maladies, en tout cas, il y a un élément essentiel que l'on souligne à chaque fois, docteur Abdourahman Diallo, c'est la prévention. On ne peut pas soigner sans avoir en amont une bonne politique de prévention. Et ça vaut aussi pour le paludisme.
Absolument. La prévention est au cœur des interventions dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Vous disposez d'un certain nombre d'interventions de prévention, en tout cas qui semblent marcher, dont l'utilisation donc correcte de moustiquaires imprégnés. Vous avez la chimioprévention saisonnière chez les enfants, vous avez la prévention chez les femmes enceintes, vous avez la pulvérisation intra-domiciliaire, vous avez même la pulvérisation des gîtes larvaires. Donc vous avez un certain nombre donc d'interventions qui servent donc en amont, n'est-ce pas, à prévenir une infection au paludisme.
Quel est l'impact du financement par le Fonds mondial, professeur Dabis, pour la recherche? Est-ce qu'il y a des campagnes ou des études qui sont spécifiquement financées par le Fonds? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que telle ou telle avancée, eh bien, c'est directement le résultat d'une action du Fonds mondial?
Alors, la réponse, elle est non. Aujourd'hui, et depuis le début, le fonds n'a pas été conçu pour financer la recherche, ce qui est un petit peu paradoxal quand on entend aujourd'hui, justement, le directeur exécutif dire qu'il utilise tous les jours, le fonds mondial utilise tous les jours les résultats de la recherche et que cette recherche, il faut l'appliquer sur le terrain. Alors, le président Macron l'a redit dans son discours, c'est au travers essentiellement du mécanisme de Unitaid, c'est-à-dire le financement innovant. Vous savez, la taxe sur les billets d'avion, hein, pour simplifier, que là, par contre, se finance une bonne partie de l'innovation et de la recherche qui peut s'appliquer après au Fonds mondial. Et nous, par exemple, en France, qui sommes les premiers donateurs, d'ailleurs, hein, à Unitaid, on a des équipes de recherche qui bénéficient à la fois de financement public français que je peux donner au travers de l'ANRS et de cofinancement d'Unitail. On a actuellement 6 gros programmes sur le terrain qui vont à la recherche de nouvelles innovations qui après serviront au Fonds mondial. Mais dans le Fonds mondial lui-même, il n'y a pas de mécanisme véritablement de soutien à la recherche.
Et un exemple concret, une illustration en termes justement d'innovation, et peut-être même les auditeurs qui nous écoutent en ce moment profitent de ces innovations.
Alors aujourd'hui, eh bien, il y a un grand programme qui commence cofinancé donc par l'ANRS et Unitail dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest pour la mise à disposition des autotests de dépistage. Ce projet Atlas vise justement dans des conditions où il y a beaucoup de discrimination et où aujourd'hui les gens n'utilisent pas assez les moyens de dépistage à leur disposition, pas plus les individus que les services de santé, de rajouter une offre supplémentaire. Et là, on va travailler à une large échelle, on va expérimenter sur des centaines de milliers d'autotests, peut-être des millions d'autotests distribués dans 4 pays d'Afrique, et on va voir les conditions dans lesquelles on peut le faire. On va faire du marketing social pour arriver à monter en gamme et proposer une autre offre de dépistage. Voilà un exemple très concret où aujourd'hui on a la technologie. Dans certains contextes en France ou dans certains pays d'Afrique du Sud, on a déjà des expériences. On n'a aucune idée de savoir dans des pays où la discrimination est plus forte, où le modèle d'utilisation est différent, et on va essayer ça.
Justement, professeur François Dabis, parce qu'il faut rappeler que pour certaines communautés, c'est pas évident d'aller dans un centre de santé, d'autant plus d'aller demander le dépistage. Il y a la peur du regard, encore une fois. Donc, avec ces autotests, ça fait partie de la démédicalisation qui est prônée, qui est revendiquée par de nombreuses associations de patients. Ça fait partie justement d'une manière d'atteindre peut-être un jour les fameux 90% de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, ça veut dire qu'elles ont été tout simplement dépistées, 90% des personnes infectées qui recevraient un traitement, et puis 90 autres qui auraient donc un traitement antirétroviral avec une charge virale durablement supprimée, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus transmettre la maladie, tout
absolument.
Simplement. Il y a des inquiétudes pour cet objectif qui avait été fixé à demain, à 2020.
Oui, à 2020, et on est en train même de réviser nos cibles en se disant que c'est plutôt 95 qu'il faudrait, parce que aujourd'hui, si l'immense majorité de la population acceptait de se faire dépister, et que parmi les gens négatifs, ceux qui prennent vraiment beaucoup de risques, au-delà du préservatif qui est toujours recommandé, ils utilisaient par exemple la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire l'utilisation d'antirétroviraux pour se prévenir, eh bien, il n'y aurait aucune transmission. Et de la même manière, tous ceux qui seraient dépistés positifs, s'ils étaient tous traités immédiatement, on sait aujourd'hui qu'on n'aurait aucune transmission à autrui.
Donc aujourd'hui, on a des outils.
Absolument, les outils, on les a. Les passer à la bonne échelle et de manière permanente, c'est tout le défi que l'on a. Ou alors trouver des solutions encore plus simples, c'est ce que la recherche essaie de faire.
Vous restez avec nous, on va poursuivre le débat.
RFI à Abidjan, 97.6 FM. Conakry, 89.9 FM.
Priorité santé sur RFI.
Cet échange à l'issue de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes toujours avec nos deux invités pour l'instant en studio avec nous à Lyon à cette conférence. Docteur Abdourahmane Diallo, avec vous, on parle du paludisme. Professeur François Dabis, de la recherche, puisque vous êtes à la tête de l'ANRS. L'ANRS qui a rapatrier vers ses services aussi les hépatites. Je vous pose cette question, ça fait quand même déjà un certain nombre d'années, mais quand même, ça veut dire que quand on s'intéresse au sida, ou même quand on s'intéresse à une épidémie, vous l'avez rapidement souligné tout à l'heure, on ne doit pas exclure d'autres pathologies. On ne traite pas un seul mal, on traite l'individu dans son ensemble. On parle aujourd'hui justement de ces maladies infectieuses, mais on a en tête aussi toutes les maladies non transmissibles, avec justement le virage qui est en train de connaître l'Afrique, avec l'importance de plus en plus pressant justement du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires. Il faut gérer tout cela de front.
Oui, alors les hépatites, l'agence s'en occupe depuis bien longtemps, mais Pas en Afrique. Effectivement, en Afrique, ça fait un petit nombre d'années que nous avons des programmes de recherche sur ce sujet-là. Alors, les hépatites virales, c'est aussi une maladie transmissible. Donc, on reste dans le domaine du transmissible pour l'instant. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, il faut centrer l'organisation des systèmes sur les personnes. Et lorsque vous avez une personne qui vient pour un dépistage ou à qui on propose un dépistage, il est inconcevable aujourd'hui qu'on ne dépiste pas en même temps à la fois le virus du sida, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Et que si l'on trouve l'un, deux ou trois de ces virus, on intègre toutes les solutions le plus rapidement possible et de manière cohérente. Et ça, on ne le faisait pas jusqu'à présent. Et je pense que dans ce cycle du Fonds mondial, on verra de plus en plus une approche centrée sur les personnes se mettre en place.
Et le problème très concret, professeur Dabi, c'est que des fois, quand on est dépisté, eh bien, le traitement ne fait pas partie des lots de médicaments qui sont pris en charge par le système de santé. Et donc, le malade va se retrouver à devoir payer des médicaments qui peuvent être très chers. Et donc, il ne va pas pouvoir financer.
Alors, pour l'hépatite C, c'était le cas jusqu'à il y a peu de temps. Mais on a vu en l'espace, là, maintenant, de 2 ans à peu près, les prix chuter de manière absolument dramatique, enfin, de manière spectaculaire, en tout cas. Génériques, ce qui est une excellente nouvelle. On rappelle que l'hépatite C, ça peut se guérir définitivement. C'est-à-dire que le virus disparaît en maximum 3 mois, parfois même un petit peu moins. Et donc, on peut imaginer des traitements. Alors, aujourd'hui, le Fonds mondial ne les fournit pas d'une manière systématique. Il est un peu frileux là-dessus. À nouveau, je pense qu'un fonds mondial mieux doté devrait à nouveau avoir une approche centrée sur les personnes qui permettrait de régler ce problème.
Augmenter l'accès aux soins, à la santé. On parle des acteurs communautaires qui sont en première ligne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les États prennent vraiment leurs responsabilités? On peut dire que vous avez changé de bord, docteur Abdourahmane Diallo. Vous étiez ministre, aujourd'hui vous faites partie d'une organisation non gouvernementale de santé. Quand on change comme ça, peut-être qu'on a un regard critique sur ce que l'on faisait avant, non? Est-ce qu'on se dit que tel ou tel pays dépense assez pour la santé de ses concitoyens? Je veux dire, le Fonds mondial, c'est bien, mais le ministère de la Santé, c'est mieux, non?
Comme vous dites, il y a un certain nombre de choses. Premièrement, vous avez la déclaration d'Abuja qui recommande un seuil d'un minimum de 15% du budget national consacré au secteur de la santé. Mais je pense que ce seuil donc constitue un bon repère pour savoir où se situent les pays dans l'investissement dans le secteur de la santé.
Si on regarde la carte de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, aucun pays n'atteint ce seuil des 15%.
Il y en a qui sont au-dessus de 10%, mais...
Mais on n'est pas à 15. On n'est pas à 15.
Pas à 15. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont à 15.
Et justement, qu'est-ce qui peut motiver? Parce que ce qui peut étonner à la conférence d'aujourd'hui à Lyon, c'est qu'on a vu des pays bénéficiaires, modestement, mais courageusement, donner de l'argent pour le Fonds mondial. Qu'est-ce que ça veut dire, ce financement d'un pays qui, plus tard, va lui-même recevoir les fruits du Fonds mondial, docteur Diallo?
Alors, il y a 2 choses qu'il faut mentionner là. Premièrement, c'est que, effectivement, la contribution de ces pays est symbolique. Moi, je pense que c'est une façon de montrer la détermination, l'engagement, l'élan de solidarité, donc l'esprit de contribution pour motiver davantage les donateurs classiques. Hein. C'est de dire, écoutez, c'est un panier commun qui sert à tous les pays qui sont éligibles. Nous mettons la main à la poche, même si nous-mêmes nous sommes bénéficiaires, mais nous contribuons à ce panier commun. La deuxième chose dont je voulais parler justement, c'est la mobilisation de ressources internes. Aujourd'hui, il y a un engouement, il y a en fait beaucoup d'efforts, en tout cas beaucoup de plaidoyers en faveur de la mobilisation de ressources internes des pays, mais particulièrement l'implication du secteur privé.
Professeur François Dabi, je vais vous poser une dernière question avant de vous saluer. On a parlé justement dans le cas du sida du côté absolument important, impératif d'atteindre les populations cibles, les populations les plus vulnérables aussi. Mais cela ne peut pas se faire sans la contribution, là non pas financière mais politique, des pouvoirs publics. Est-ce que les chercheurs, est-ce que les scientifiques peuvent avoir justement un discours pour convaincre les politiques d'en finir avec, pour parler crûment, la répression, pour leur expliquer le bien fondé, justement, de ces critères sanitaires?
Écoutez, moi j'appellerais ça la recherche plaidoyer. On voit que beaucoup de décisions publiques aujourd'hui, quel que soit le pays, sont prises avec des preuves. Donc ce que les chercheurs peuvent faire, c'est poser des questions, imaginer de construire des projets qui répondent à ces questions et d'amener des preuves sur la table. À titre d'exemple, pour reprendre exactement les sujets que vous évoquez, nous, à la NRS, on a actuellement deux projets en Afrique de l'Ouest, dont un cofinancé par Unitaid à nouveau. L'un, ça consiste justement à s'occuper de personnes qui se déclarent comme homosexuels masculins et à qui on propose la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, dans des conditions qui sont pas faciles, dans des conditions où aujourd'hui les services publics ne sont pas prêts à les donner. Et malgré tout, nous, on déroule les projets et on offre des services, on documente ce que l'on fait et ça fonctionne et on démontrera bien que ça fonctionne. On est aussi en train de faire la même chose dans d'autres pays avec les professionnels du sexe qui, elles, nous demandent de la PrEP, mais nous demandent aussi des services de la santé de la reproduction. Et on va démontrer qu'en mettant tout ça dans un paquet de services, eh bien, il y a une bonne adhésion et on a des résultats. Voilà le type de recherche que j'appelle plaidoyer au bout du compte, mais qui, bien sûr, ne se supplée pas à la décision publique. Moi, je ne suis pas là après pour décider, et encore moins à la place de collègues dans d'autres pays.
Mais au moins le documenter.
Absolument, le documenter avec le meilleur niveau de preuve possible.
Docteur Abdourahmane Diallo, pour le paludisme, une pathologie qui concerne encore, on l'a bien compris, une bonne partie des habitants d'Afrique subsaharienne, quelles sont aujourd'hui les priorités de votre organisation? En finir avec le paludisme, hein, le ton est donné, en finir, est-ce que l'on peut vraiment en finir avec le paludisme?
En tout cas, nous pensons que l'espoir est permis parce que au vu des résultats enregistrés depuis l'an 2000, nous savons que les outils dont on dispose aujourd'hui marchent. Donc, il est fondamental qu'il y ait les ressources qu'il faut pour continuer à utiliser ces outils qui marchent, d'une part, et d'autre part, vous le disiez tantôt, investir dans la recherche et le développement, particulièrement dans le cas de résistance, pour être en avance sur non seulement le vecteur et le parasite. Donc nous, aujourd'hui, notre priorité principale, c'est de nous assurer que les pays qui portent le plus lourd fardeau de paludisme se remettent sur la voie donc de l'élimination. Et l'espoir est permis, comme je le disais, aujourd'hui plus que jamais, on a un nombre incroyable de pays qui sont sur la voie de l'élimination. Il y a 46 pays qui sont donc sur la voie de l'élimination. Un peu plus tôt cette année, comme vous savez, l'Argentine et l'Algérie ont été déclarés et donc exempts de paludisme. Nous pensons qu'avec les ressources qu'il faut, il y a de fortes chances que d'ici 2030, en tout cas, on fasse un progrès significatif dans le sens de l'élimination.
Merci beaucoup, Dr Abdourahmane Diallo. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Et on remercie également le professeur François Dabis, directeur de l'ANRS. RFI. Alors, monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur Awele Eugène Aka.
Bonjour, madame.
Tout à l'heure, à la tribune de cette conférence de Lyon, juste avant que nous enregistrions cette émission, on a entendu le premier ministre de la Côte d'Ivoire venir annoncer, comme tous les donateurs, la contribution de votre pays pour ces reconstitutions des ressources du Fonds mondial. Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire donne de l'argent au fonds et dans un deuxième temps reçoit de l'argent du Fonds mondial?
Bien, merci madame. Je pense que ça part du principe élémentaire qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Bien entendu, la Côte d'Ivoire ne se suffit pas. Elle a besoin, malgré tous ses efforts, elle a besoin de l'appui des autres pays, particulièrement des partenaires au plan multilatéral et bilatéral. Mais la Côte d'Ivoire, en venant annoncer sa contribution, telle que ça a été fait par le Premier ministre, de donc 1 500 000 dollars, a démontré qu'elle est complètement engagée dans le processus. Donc c'est tout à fait normal, car de 2003 à 2018, c'est plus de 590 millions de dollars que la Côte d'Ivoire a reçu du Fonds mondial.
14e bénéficiaire, hein, j'ai vérifié le
tout
rang.
Tout à fait.
189 millions de dollars qui sont répartis donc entre les trois grandes pandémies, VIH, 66, 111 hein, pour le paludisme, c'est le budget principal, 12 pour la tuberculose. Mmh. Et il faut dire que votre pays, la Côte d'Ivoire, a vu les résultats de ces investissements du Fonds mondial, puisque sur le front de ces trois maladies, eh bien, la situation s'est améliorée et davantage de patients sont désormais pris en charge.
Tout à fait, tout à fait. Sur ces trois pandémies, vous l'avez dit, d'abord pour le VIH-Sida, aujourd'hui on est passé d'une prévalence de 4,5 à 2,5%. Donc c'est considérable, nous venons de loin. Sur le palu également, c'est près d'une, il y a une chute de près de 60%. Vous savez que le palu, c'est vraiment l'un des fléaux qui arrive dans ce pays. Tous les enfants de 0 à 5 ans. Personnellement, quand je vais dans un hôpital, lorsqu'on je vois 10 enfants hospitalisés, pratiquement 8 à 9, c'est pour des raisons de palu. La tuberculose également, de gros efforts ont été faits, ça a beaucoup baissé. Et donc, je pense que nous devons saluer le Fonds mondial pour cet effort remarquable.
Renforcer le système de santé, on l'entend à chaque fois qu'on parle du Fonds mondial. On dit, oui, il y a les pandémies, mais il y a aussi l'accès aux soins, l'accès aux traitements. La Côte d'Ivoire dit officiellement avoir lancé en octobre dernier la couverture santé. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Moi, je vous pose une question très concrète. Quand on est malade, on a peu de ressources. Aujourd'hui, une dame qui vend sur le marché, elle a un enfant malade, elle va au centre de santé. Qu'est-ce qu'elle va payer?
Alors, cela suppose que cette dame a été, comme on le dit dans le langage, enrôlée et qu'elle donc dispose de la carte de la couverture maladie universelle.
Ça veut
donc,
dire que la base, si déjà, c'est aller s'inscrire.
C'est tout à fait qu'elle est inscrite. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 1 500 000 à 2 millions de personnes qui sont donc enrôlées, mais le processus continue. Alors, pour une telle personne, donc, disposant de sa carte, quand elle va, soit dans un centre de santé ou dans une clinique agréée, mais disons le centre, dans un établissement sanitaire, il y a des coûts, souvent, généralement, au niveau vraiment primaire, le ticket à payer, normalement, c'est 300 francs. Cette dame qui a sa carte payera 30%.
Est-ce que ça suit du point de vue administratif? Parce que c'est des mesures qui demandent beaucoup de travail pour remplir des papiers, pour inscrire les gens. Ça demande énormément d'énergie. Est-ce que ça suit ce mouvement?
Non, le système est en partie déjà informatisé. Mais vous savez qu'on n'a pas toujours, on a toujours des problèmes de réseau, de courant. Et nous avons pu recruter des agents d'accueil. Mmh. Des agents d'accueil qui sont aujourd'hui... on en a recruté à peu près 1400, 1500. Et au moment où je vous parle, il y a encore 500 qui ont démarré leur formation aujourd'hui. Je dirais même, heureusement, tout le monde, parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même 25 millions d'habitants aujourd'hui, que tout le monde n'est pas encore enrôlé. Certainement parce que les gens n'y croyaient pas trop. Mais aujourd'hui, ça va à un rythme encore depuis qu'on a démarré plus rapide. Mais au départ, beaucoup n'y croyaient pas parce que, souvenez-vous que ça fait au moins 20 ans que d'autres en parlaient. Mais avec le président Alassane Ouattara, la promesse s'exécute, se devient effective.
Alors, on a entendu justement insister sur cette dimension de la santé globale, prendre en compte les différentes maladies, accéder aux soins, accéder aux médicaments, justement par le biais de ce financement de la santé. Il y a un point qui est très important quand on parle de santé en Afrique subsaharienne et peut-être encore plus quand on parle de VIH-Sida, c'est de stigmatisation des populations. Et on le sait, pour vaincre le Sida, il faut toucher tout le monde, y compris des populations que certaines personnes n'ont pas forcément envie de voir. Je pense aux hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes ou encore aux professionnels du sexe. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, il y a même des politiques répressives, de la prison pour certaines catégories de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il faut soigner des gens qui sont stigmatisés, monsieur le ministre?
Bien, je dois dire que en Côte d'Ivoire, cela n'apparaît pas. Bon, c'est peut-être de façon un peu sournoise. On fait en sorte qu'il y ait l'implication d'abord des communautés. Vous savez que nous avons dans notre organisation aujourd'hui, la chefferie est très impliquée aux côtés des autres institutions et donc participe à la mise en œuvre de toutes les décisions du gouvernement. Donc, au niveau local, au niveau des villages, les communautés sont impliquées, comme sont impliquées également les communautés religieuses pour pouvoir amener la population à comprendre la nécessité de se prendre en charge. Parce qu'on a dit tout à l'heure, vous savez, ça, il a été dit que c'est le droit à la santé, c'est le premier droit de l'homme.
Ça fait partie des droits de l'homme. Une dernière question pour conclure, monsieur le ministre Awele Ojenaka, c'est sur l'argent, l'utilisation qui va être faite de cet argent que dans les années à venir, le Fonds mondial va verser pour la prise en charge des pandémies en Côte d'Ivoire. Pour vous, c'est quoi les priorités ?
En Côte d'Ivoire, lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011, il a trouvé un système de santé qui était complètement, je dirais, à terre, parce que nous sortions d'une crise de 10 années. Donc pendant les 10 années, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur de la santé. Donc le système sanitaire, c'était vraiment alarmant. Mais de 2011 à 2017, le président avait donc immédiatement considéré que la santé devait être une véritable priorité et a fait investir énormément dans ce secteur en vue de réhabiliter le système, en vue d'équiper, en vue d'en construire. Ensuite, à partir de 2017, il s'est rendu compte que malgré tout cela, malgré tout l'effort qui avait été fait, il fallait un véritable plan pour sauver le système, en tout cas pour le mettre à niveau. Parce que n'oublions pas que dans les premières années, avant la crise, la Côte d'Ivoire était le hub sanitaire dans la sous-région, donc les zones finies. Donc depuis, disons, 2018, le président, en plus du budget annuel, a mis en place un investissement important de plus de 833 milliards, disons 1,5 milliard d'euros pour la construction, pour l'équipement, pour la réhabilitation du système de santé. Et le choix qui a été fait, ça porte sur les mortalités. Vous avez demandé quelles sont les priorités. Il se trouve que nous avons un taux de mortalité extrêmement élevé en ce qui concerne les mères.
Et les jeunes enfants.
Et les jeunes enfants et même les nouveau-nés. Mmh. Donc, par conséquent, il faut bien partir de là. Donc, en plus des trois fléau, on l'a dit, en plus du sida, du palu et de la tuberculose, l'autre priorité, c'est comment réduire
la santé maternelle et néonatale.
C'est véritablement une priorité dont les fonds seront orientés là-bas. L'autre priorité, ce qui découle d'ailleurs de ce que nous avons dit, c'est faire en sorte que la population la plus défavorisée puisse avoir accès à des soins de santé, d'où l'institution de la couverture maladie universelle qui a démarré le 1er octobre dernier. J'allais oublier la vaccination également. On fait beaucoup de prévention avec la vaccination. D'éviter les maladies évitables doit être obligatoire pour sauver les enfants.
On vous remercie beaucoup, Monsieur Awele Ojenaka, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci à tous nos invités pour cette émission enregistrée à Lyon à l'issue de la conférence de reconstitution du Fonds mondial. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui a préparé et fabriqué cette émission. À Sétou Samaké, Ophélie Lassène et pour la réalisation et les moyens techniques ici à Lyon, Marc Fichet, Didier Bleu à Paris. Lundi dans Priorité Santé, on attend vos appels, besoin d'explications sur un problème de santé, sur un traitement, sur l'effet d'un médicament. Vous avez entendu ou lu une information sur un produit ou une maladie et vous souhaitez mieux comprendre et vérifier, un médecin généraliste sera en direct avec nous pour répondre à toutes ces questions. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de l'émission ou appelez-nous au 33 84 22 75 75. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.